Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous partage un deuxième épisode avec Jonathan Lehmann, car après notre première conversation, j'avais encore beaucoup de questions à lui poser et je savais qu'il avait encore beaucoup de conseils précieux à nous partager. Dans cet épisode, Jonathan nous partage son expérience de Vipassana, un séjour de silence et de méditation, et comment cela a transformé sa vie, les conseils qu'il a à nous partager pour commencer à méditer, et l'importance de la pratique du silence pour notre bien-être à tous. Jonathan nous partage aussi sa vision de la spiritualité et pourquoi il n'a aucune honte à parler de shopping spirituel et du fait d'aller piocher dans différentes pratiques pour trouver notre propre spiritualité qui nous parle le plus. Enfin, Jonathan nous partage aussi comment il arrive à associer sa vie d'entrepreneur à celle d'étudiant du bonheur, la question qu'il faut se poser pour être un entrepreneur épanoui et le secret qui mène à des opportunités et des projets qui marchent. Si vous appréciez écouter In Power, c'est en vous abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit mot sur pourquoi vous appréciez l'écouter que vous pouvez soutenir le plus le podcast. Je remercie aujourd'hui Jessica qui a laissé le commentaire suivant. Coucou Louise, je ne mets jamais de commentaires sur les réseaux sociaux, mais là aujourd'hui je te laisse un commentaire pour te dire bravo et merci pour ce podcast tellement inspirant. Je suis actuellement en train de faire des travaux chez moi et tes podcasts m'accompagnent tout le long de ce périple et rendent mes travaux plus agréables. Je te félicite de pouvoir entreprendre autant de projets sans jamais baisser de qualité. Encore bravo et j'espère pouvoir finir tes podcasts en même temps que mes travaux. Merci beaucoup Jessica pour ce message rempli de bienveillance et merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Et je suis désormais heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jonathan. Super, bon bah bonjour Jonathan.
Coucou Louise.
Re-bienvenue sur In Power. Pour tout vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, mon micro vient de me lâcher. Donc on fait ça comme on peut, mais je suis sûre que ça ne nous empêchera pas d'avoir une conversation passionnante, comme la première partie que je vous invite à aller écouter si jamais vous ne l'avez pas encore écoutée. Mais je pense que si jamais vous avez cliqué sur deuxième partie, c'est que vous avez entendu la première partie de notre entretien. Donc bon, peut-être au cas où, Jonathan, si tu peux te représenter quand même de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent.
Ok, je m'appelle Jonathan Lehmann, je suis un étudiant de la question du bonheur à plein temps. J'écris des bouquins sur le bonheur, j'ai une application de méditation guidée que tu connais bien, qui s'appelle Seven Mind. Et voilà, je m'intéresse à l'intersection de sagesse ancestrale sur la question du bonheur, que ce soit les philosophies antiques, le bouddhisme, les sagesses indigènes et ce que nous dit la science contemporaine sur le bonheur, donc neurologie, psychologie cognitive, psychologie positive. Et en fait, cette intersection, on peut l'appeler la science du bonheur. Et c'est ça que j'étudie d'abord d'une manière théorique et ensuite d'une manière pratique en m'appliquant divers enseignements, voyant ce qui a un impact sur moi et en fonction de ce qui fonctionne, je partage.
Et tu as notamment partagé déjà à travers deux livres, donc Journal intime d'introduction du bonheur et Les antièges du bonheur. Du coup, je n'avais pas encore lu ces livres lors de notre premier entretien. Là, j'ai lu Journal intime d'introduction du bonheur et j'ai quasiment fini Les antièges du bonheur. Donc c'est un peu ce dont je voulais parler avec toi là pendant cet entretien. C'est pour les personnes qui n'ont pas encore lu ces livres, si on commence par Journal intime d'un touriste du bonheur, tu racontes du coup ton expérience de Vipassana d'abord, qui est donc un voyage que tu peux réaliser où tu veux, en tout cas dans les centres qui l'effectuent, et c'est une retraite méditative silencieuse qui dure 10 jours, je crois, et où tu médites 10 heures par jour. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à faire Vipassana et qu'est-ce qui s'est passé en fait après ces 10 jours pour toi?
En fait, tout a commencé pour moi en découvrant les écrits de Eckhart Tolle sur la tyrannie du mental, sur le manque d'accès à l'instant présent. Quand j'ai lu ces bouquins, j'ai eu l'impression de vivre un éveil spirituel. J'ai eu l'impression que ça y est, j'étais devenu un être éveillé. Je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté et que, en fait, pour réussir à avancer sur ce chemin, c'était très important de comprendre la théorie telle qu'elle est expliquée par Eckhart ou telle que moi aujourd'hui je l'explique dans mes bouquins, mais que le plus important, c'était la pratique. Et la pratique, c'est quoi pour dompter le mental? C'est la pratique de la méditation. Donc, j'ai appris à méditer avec des enregistrements en ligne Un site qui s'appelait Méditation Oasis. Quand je suis rentré en France, j'ai décidé moi-même d'enseigner la méditation, en tout cas d'enregistrer moi-même des méditations guidées, mais pas en tant qu'enseignant, en tant qu'un peu grand frère, tu vois. J'avais appris des méditations en anglais. Là, j'étais en France, il y avait très peu de contenu en français à l'époque, donc j'ai un peu calqué, fait à ma sauce, sans diplôme, sans rien, hein. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ces méditations, elles ont commencé à avoir un certain essor. Il y a de plus en plus de gens qui les écoutaient. J'avais de plus en plus de questions sur la pratique de la méditation. Et là, je commençais à avoir un problème de légitimité qui était, c'est bien, oui, je suis un méditant et oui, je pratique la méditation, mais je n'ai pas encore fait Vipassana. Vipassana, c'est un peu c'est un rite de passage pour tout méditant. Si tu veux, je commençais au niveau où j'étais en train d'arriver avec les questions qu'on me posait. Il me semblait que c'était essentiel que je vive cette expérience qui est une expérience clé pour pouvoir véritablement mieux parler de la méditation aux personnes qui me posent des questions. Parce que, tu sais, mon approche, c'est que j'ai fait des études de droit dans des grandes universités, j'ai fait des études de commerce dans des grandes universités, j'ai plein de diplômes. Et quand j'ai changé de vie, quand j'ai arrêté d'être avocat d'affaires, arrêté d'être start-upper, j'ai décidé volontairement d'arrêter de rechercher des diplômes, d'arrêter de rechercher une autorité extérieure qui allait mettre un tampon pour me dire c'est bien et tout. Et c'est pour ça que la matière des antisèches du bonheur, c'est que du vécu. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, et en même temps je trouve que c'est un peu plus authentique. Mais bref, tout ça, c'est une longue manière de t'expliquer pourquoi il me semblait si important, pour être aligné, pour être légitime, de faire Vipassana, ces 100 heures de méditation en 10 jours. Et quant à la deuxième partie de ta question, qui est qu'est-ce que ça a changé, ça a tout changé. C'est l'expérience majeure de ma vie. Ça a changé mon rapport à mon mental, mon rapport à mes émotions, ça a changé mon rapport à la douleur, ça a changé ma capacité à être patient, ça a changé mon habileté à ressentir de l'empathie, à pratiquer la compassion. Ça a tout changé. À partir du moment où tu transformes ton rapport à ton corps, à ton mental, à tes émotions et à la notion de temps, ce qui se passe, sans parler de questions que j'ai été explorées par rapport à mon histoire personnelle, certaines blessures, notamment une rupture difficile dont je parle dans le bouquin. Donc pour moi, il y a vraiment un avant et un après de cette expérience. Et c'est une expérience qui infuse aujourd'hui ma vie tous les jours, puisque je pratique Vipassana tous les jours. C'est ma pratique méditative.
Et est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, distinguer peut-être quelle est la particularité de ce type de méditation ? C'est quoi en fait une méditation Vipassana ?
Ouais. Il existe plein de types de méditations différentes, plein de techniques. De la même manière que si tu veux faire du sport, tu peux faire du crossfit, tu peux faire de la muscu, tu peux faire de l'athlé. C'est pareil avec la méditation. Il y a plein de façons de méditer différentes. Il y a plein d'écoles, il y a plein de traditions différentes. Il y a des traditions avec des mantras, qui sont comme des mots que tu te répètes pour empêcher les pensées parasites de rentrer. Il y a des traditions avec de la musique, il y a des traditions qui sont en mouvement. Le tai chi, le qigong, c'est des pratiques méditatives. Et il y a une pratique qui a été amenée par Bouddha. Et cette pratique s'appelle Vipassana. Et Vipassana, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont. Et Vipassana elle-même, c'est une pratique de scan corporel. C'est l'idée que tout passe par le corps. À la base de toute pensée, à la base de toute émotion, il y a une sensation dans le corps. Une sensation dans le corps qui est impermanente. Si j'apprends à observer ces sensations corporelles, à y devenir sensible, même quand elles sont subtiles, et à ne pas y réagir compulsivement, alors je change complètement le rapport que j'entretiens avec mon mental et avec mes émotions. Donc dans une retraite Vipassana, tu commences avec ce qu'on appelle Anapana, qui est juste la concentration sur le souffle. Tu vas ensuite sur Vipassana, qui est vraiment ce scan corporel que tu fais heure après heure, jour après jour, parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais à quel point il y a des sensations absolument partout dans le corps. Mais si je te demande là de ressentir les sensations exactes qu'il y a dans ton épaule droite, c'est possible que tu ne sentes rien, parce que tu n'es pas encore vachement habitué, parce que ça demande comme tout de la pratique. Donc la retraite se termine par l'apprentissage d'une technique qui s'appelle Metta, qui est la compassion, qui est en gros où tu souhaites à toi-même et aux autres la libération de la souffrance. Et qui, soit dit en passant, on sait aujourd'hui que la pratique de la compassion, c'est une de celles qui a le plus grand pouvoir transformateur sur le cerveau. Et notamment, une des choses que la méditation fait sur le cerveau, et notamment Metta, c'est qu'elle diminue l'impact de la vieille partie du cerveau, l'amygdale, qui est responsable de la peur et du stress, et elle augmente le rôle de la nouvelle partie du cerveau, le néocortex préfrontal, qui est en charge de l'empathie, de la créativité et de toutes nos capacités cognitives plus modernes.
Quand tu dis que le scan corporel... c'est le fait de faire attention aux sensations dans notre corps. Tu distingues sensations et émotions, parce que j'ai entendu moi récemment, ou j'ai lu, je ne sais plus, qu'une émotion, elle reste environ 7 secondes, je crois, dans le corps. Donc, je me vois mal toute la journée être à la recherche d'émotions. Et moi, je t'avais dit déjà que je suivais avec beaucoup de discipline et de rigueur tes méditations chaque jour. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu démunie face à la question d'essayer de ressentir ton humeur du moment. Et presque, j'en viens à la créer, parce que quand je me scanne, je ne ressens rien. Je peux ressentir des sensations, un peu, peut-être des fourmis quelque part, j'ai toujours un peu, bon, mal au ventre, machin, mais parfois, hein, je ressens des vraies émotions, je peux dire, voilà, une journée où j'ai un vrai stress et tout, mais j'ai l'impression qu'il peut peut-être y avoir aussi, pour les autres personnes qui méditent, parfois cette culpabilité de « je sais pas bien faire ».
Ouais. Ouais, alors il y a beaucoup de questions, tu vas me reguider, parce que dans cette question, il y a beaucoup de questions, je crois. Déjà, il faut comprendre quand on est sur ce chemin que ça se passe progressivement. Il faut du temps. Si tu veux apprendre à danser le ballet, c'est pas du jour au lendemain que tu vas être une virtuose. Si tu veux apprendre à jouer au tennis, tu vas pas frapper des coups droits comme Nadal après-demain. C'est pareil avec la voie méditative. Développer la faculté d'attention, développer cette sensibilité, ouvrir son cœur, c'est des choses qui demandent une vraie pratique et qui demandent une expertise. Donc, il faut y aller progressivement. Sur la question de la différence entre les émotions et les sensations physiques, en fait, c'est très intéressant et ça dépend comment tu définis une émotion. Mais prends la colère, par exemple. Moi, quand je ressens de la colère, je ressens une contraction au niveau de mon plexus solaire. Je ressens une accélération de mon rythme cardiaque. Je ressens ma mâchoire qui va peut-être se contracter. Et parfois, j'ai mes poings aussi en fonction du niveau de colère qui se contracte. Tout ça, c'est des sensations physiques qui se passent et qui sont... donc là, tu pourrais dire émotion égale sensation physique. Donc là, c'est une... Vipassana t'apprend à observer ces sensations physiques sans rajouter un relais mental. Avant d'être méditant, ce qui se passe, c'est que, imagine, tu as cette colère qui, effectivement, dure très peu de temps, qui est complètement impermanente. La sensation physique, elle va durer 7 secondes. Je ne sais pas, je connais pas cette étude, mais ça me paraît tout à fait probable. Mais ce qui se passe après, quand on est identifié à notre mental, c'est que le mental prend le relais. Imagine, je me suis mis en colère, je prends toujours cet exemple, avec ma mère qui m'a dit un truc pour m'énerver. Je vais ressentir physiquement la colère, mais juste derrière, si je suis identifié à mon mental et que je ne suis pas un méditant, je vais commencer à avoir des histoires dans ma tête sur « elle abuse, je ne peux pas croire, elle ne devrait pas faire ci, elle ne devrait pas faire ça, etc. » C'est très possible même que les sensations physiques soient parties à ce moment-là et que maintenant je suis juste dans ma tête. Ou alors qu'avec ce que je suis en train de faire avec ma tête, je suis en train de faire perdurer les sensations physiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sensation physique qui était là à la base, qui est la seule chose en fait contre laquelle je puisse rien faire, elle est plus là. T'as raison. Donc le Vipassana est intéressant parce que tu peux aujourd'hui, quand j'ai de la colère, je dis ah, alerte, il y a de la colère en moi. Donc là, je sais que c'est une partie différente de mon cerveau qui est aux commandes. Je sais que je vais être, en gros, un peu plus bête, parce que la colère te rend bête pour pouvoir te faire agir rapidement. Donc, je sais que déjà, avant de résoudre quoi que ce soit, il faut sortir de la colère. Donc, il faut se calmer, il faut se concentrer sur la respiration, il faut observer les sensations physiques, il ne faut pas rentrer dans un débat. Parce que ce que je vais dire quand je suis en colère, quand j'ai les sensations, c'est pas pareil que ce que je vais dire quand je serai plus calme. Donc il y a un changement total en fait du rapport grâce à Vipassana à ce genre d'émotion. Et par rapport au dernier point de ta question, je crois que tu me diras si j'ai raté un point. Ça arrive parfois qu'on ressente rien. Ça arrive parfois que tu sois neutre. Et c'est bien en fait la neutralité. Moi, tu sais, j'ai eu tendance dans ma vie à passer d'énormes enthousiasmes à énormes déprimes. Et il me semble de ce que la vraie, la voie sage, c'est la voie du milieu. Que la voie sage, c'est d'arriver à une forme de neutralité, à plus rechercher les immenses sommets et avoir peur des terribles vallées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des grandes joies. On a le droit. Tu peux ressentir une forme de neutralité et c'est normal et c'est pas grave si au début que tu fais cette pratique du body scan, tu ressens pas toujours quelque chose. Observe, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je suis relâché? Est-ce que je suis tendu? Tu peux peut-être même investiguer à contrario. Tu ressens rien. Mais est-ce que je ressens du stress? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la tristesse? Tu peux faire une checklist comme ça. Si tu ne ressens pas ces choses, c'est très bien. Tu peux ni ressentir ces choses, ni ressentir un grand enthousiasme avec l'impression que c'est en train d'exploser dans ton torse. C'est cool.
Mais c'est intéressant que tu parles de neutralité et comme quoi c'est quelque chose auquel on peut aspirer. Parce que j'avais l'impression que un de mes problèmes, c'était justement de ne pas réussir à assez ressentir mes émotions et que je les avais peut-être plus ou moins, tu vois, shut down. Et en gros... de ce que je pouvais lire, en fait, c'était très mauvais de pas ressentir les émotions justement dans notre corps, parce que ça veut dire qu'on est déconnecté. Donc moi, c'est pour ça que, tu vois, j'essaie toujours de bien me concentrer pendant le scan corporel et tout, parce que j'ai envie de reconnecter avec ces émotions. Et du coup, d'après ce que tu me dis, en fait, si on est neutre, c'est pas si grave.
En fait, il y a deux choses différentes. La neutralité, d'une manière générale, non, c'est pas grave du tout. Maintenant, il y a quelque chose de très vrai dans le fait que si... Tu bloques la connexion à certaines émotions, mais qui sont là à l'intérieur de toi, là, c'est pas bon. Parce que ces émotions, elles vont commencer à prendre plus de place en toi et faire des choses qui vont être sous le niveau de ta conscience. Je te donne un exemple. Mon père, quelqu'un que j'idolâtrais, qui est mort. Quand je pensais à lui, j'avais que des bonnes choses. Je l'avais mis au rang de personnage mythologique. J'ai fait une retraite psychospirituelle en Inde où j'ai été poussé dans mes retranchements et on m'a montré qu'en fait j'avais une colère envers mon père, que je l'idolâtrais mais que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait une partie de moi qui voyait qu'à la petite enfance il m'avait abandonné et qu'il y avait une colère et qu'en fait j'avais un déni par rapport à cette colère. Et toute l'approche pendant la retraite, c'était alors que je pensais que j'étais venu travailler sur le rapport avec ma mère, c'était de travailler sur le rapport avec lui, et c'était d'être capable de hurler, c'est la méthode un peu gestalt, de sortir des émotions, de lui dire, désolé parce qu'on allait, enfin on faisait pas attention aux gros mots et tout, mais de lui dire d'aller se faire foutre, de lui dire fuck you, c'était en anglais, de sortir cette colère, de connecter à cette colère que j'avais contre lui, qui enlève rien de tout le respect et l'admiration que j'avais, mais qui était quelque chose auquel j'avais besoin de connecter pour réussir à l'évacuer. Donc, tu vois ce que je veux dire?
Oui, je sais ce que tu veux dire, mais du coup, alors la question qui me vient, c'est comment réaliser qu'on a une colère dans laquelle on est, dans le déni? Comment tu as fait pour réaliser ça?
Là, ça s'est fait dans le cadre de donc, ce travail psychospirituel.
Ouais.
Ce que j'entends par travail psychospirituel, c'est du travail thérapeutique, mais pas du travail thérapeutique avec des vieux psychanalystes freudiens qui pensent que la méditation, c'est pour les gens perchés. Je te parle de la thérapie 2.0 qui est non seulement concentrée sur l'histoire personnelle, mais qui est concentrée sur une approche spirituelle. Je crois qu'un des problèmes de certaines thérapies, de vieilles thérapies freudiennes mal appliquées, c'est que tu tournes en rond sur ton histoire personnelle, sur des trucs et tout, mais sans qu'il y ait forcément des vraies valeurs de cœur, de compassion, d'ouverture, de présence. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements, d'approches, de techniques qu'on peut qualifier de psychospirituelles, qui font rentrer l'approche thérapeutique, où en gros tu te poses la question de ton histoire, tu te poses la question de ton enfance, tu te poses la question du rapport à papa-maman, des blessures que tu as eues et de comment elles sont venues, j'ai le mot en anglais, modeler qui tu es. Et moi j'ai été amené donc à ce travail psychospirituel avec ce sage Prem Baba en Inde, des approches psychospirituelles, t'en as plein. Il y a des approches autour d'un... Il y a un mouvement qui s'appelle Radical Honesty. Il y a un mouvement thérapeutique qui est vieux, qui s'appelle la Gestalt. Moi, j'ai un thérapeute à Paris que j'ai trouvé sur Google et qui est complètement connecté. Mmh. Et qui est complètement connecté à une approche qu'on pourrait appeler spirituelle. Donc, tu peux... Tu as beaucoup de centres, tu as des retraites, tu as des groupes. Si tu recherches un petit peu, tu peux retrouver plein de choses. Il y a aussi une méthode qui, moi, me parle énormément, qui s'appelle l'énéagramme, qui est en train d'être de plus en plus connue, qui est... La théorie spirituelle des personnalités.
Ouais, c'est pas un test un peu pour savoir quel type de personne tu es?
Alors, il y a des tests qui existent, mais en fait, j'ai étudié avec un des grands profs de l'énéagramme en Californie qui te dit de pas faire de tests.
D'accord.
Parce que les tests sont eux-mêmes des interprétations. Il te dit d'étudier les types, donc les différentes personnalités qui existent, et de voir dans laquelle tu te reconnais. Le problème étant... qu'un des gros problèmes qu'on a, et c'est ça aussi le travail psychospirituel, c'est qu'on croit savoir qui on est, alors qu'en fait, on n'a aucune idée de qui on est. Si tu demandes aux gens s'ils savent qui ils sont, tout le monde va te dire oui. Mais en fait, tu te rends compte qu'on se connaît en fait très mal. Moi, j'ai compris à quel point je me connaissais mal. Je pensais que j'avais une enfance heureuse. J'ai vu en faisant ce travail que j'avais une enfance qui était apparemment heureuse, mais qui en fait l'était pas du tout. J'ai vu les blessures que j'avais, et de voir ces blessures, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le narcissisme, sur les addictions, sur mon rapport aux femmes, sur beaucoup de choses. J'étais totalement dans le noir. C'est vraiment le truc de Socrate, où il dit à la fin de sa vie, non, la seule chose que je sais, c'est que je sais rien. C'est que plus tu avances dans la connaissance de toi-même, dans la compréhension au travers de ces outils, qu'ils soient méditatifs, qu'ils soient psychologiques, plus tu te rends compte du peu que tu sais.
Justement, c'est intéressant parce que je voulais aborder ces autres outils, à part la méditation, qui peuvent aider à mieux se connaître et à aspirer au bonheur. De toute façon, c'est un peu dans la continuité de ton voyage aussi, parce qu'après Vipassana, donc t'es resté 3 mois en Inde, t'as visité des ashrams, donc qui sont un peu des centres spirituels au final, ouais. Je crois. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes expériences et peut-être des principaux enseignements que t'en as ressortis?
Ouais, si tu veux, j'étais vraiment dans une démarche décriée par certaines personnes qui suivent des courants de façon stricte, mais c'était une démarche de spiritual shopping, quoi.
Ouais, tu utilises ce terme dans le livre.
Ouais, de tourisme spirituel.
Temps, je trouve que c'est un bon moyen de... Comment on peut savoir ce qui nous parle si on n'essaye pas? Donc, j'avais l'impression que c'était un peu un cheminement de toucher à différentes approches et voir celle qui te parle le plus, quoi.
C'est ça. Mais d'ailleurs, j'avais été frappé parce que quand j'étais chez Amma, cette gourou qui fait les câlins et qui vient en France tous les ans, j'étais en train de lire Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime de Liz Gilbert, qui est un livre extraordinaire. Et beaucoup de gens ont vu le film, beaucoup de moi ont lu le livre. J'ai pas vu le film, mais le livre est extraordinaire, vraiment, je le recommande. À un moment, elle a une conversation fascinante avec un mec qui lui dit, en anglais, elle lui dit quelque chose, « You can't go around cherry picking in different religions. » C'est genre, tu peux pas aller et choisir dans chaque religion ce que tu veux, ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Et elle dit, « Je comprends d'où tu viens et ce que tu penses, mais je pourrais pas être plus en désaccord avec toi. » Et c'est exactement comme ça que je me sens, moi. C'est que aujourd'hui, il y a une mondialisation de la culture, il y a une mondialisation de la finance, il va y avoir, on espère, pour gérer ce qu'on doit gérer, une mondialisation de la politique, il y a une mondialisation de tout, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une mondialisation de la spiritualité. Aujourd'hui, tu peux... moi, mon travail spirituel, il a des très grosses influences chamaniques d'Amazonie. Il a des très grosses influences indiennes au Birman de chez Goenka. Il a des très grosses influences dans la culture thérapeutique occidentale. Et donc, il y a une possibilité aujourd'hui d'explorer et de voir. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire en Inde. Vipassana, c'est ce qui a été le plus important pour moi. Mais j'ai été aussi exposé à des enseignements, donc les enseignements de Prem Baba, qui sont eux vraiment ma première expérience avec des enseignements psychospirituels. La première fois que je me suis posé les questions, papa, maman, blessure d'enfant, et ça a été une avancée extraordinaire pour moi. J'ai été aussi exposé à des enseignements un peu plus mystiques, qui sont les enseignements que j'ai le plus de mal à partager parce que c'est ceux qui font le plus réagir et hurler les gens. On en parlait tout à l'heure. Les enseignements de Roger Castillo, qu'on appelle les enseignements non-dualistes, qui en gros disent que la volonté humaine n'existe pas et que tout est écrit, que tout n'est que fonction de nos gènes et de nos conditionnements, ce qui fait hurler 99% des gens et qui m'aurait fait hurler avant également, puisque moi j'ai grandi en étant un vrai cartésien existentialiste, je ne jurais que par Sartre, l'existence précède l'essence, c'est ce que je décide de faire qui va déterminer qui je suis. Donc si tu étais venu me voir et me dire la volonté humaine n'existe pas, je t'aurais envoyé promener. Les expériences m'ont fait voir les choses différemment. Mais c'était un des enseignements et j'ai été aussi, et je crois que c'est une des parties du bouquin que les gens préfèrent, explorer les enseignements du très controversé, néanmoins génial, Osho. J'ai été donc expérimenter le tantra, donc qui est l'approche méditative du sexe. Le tantra, c'est un domaine d'étude qui est beaucoup plus large, mais ce tantra-là et beaucoup de pratiques de tantra tournent autour du sexe. Je me suis bien marré. Il y avait des trucs bien perchés. Notamment, on en parlait tout à l'heure, des moments où tu hurles, où tu sors tes émotions de cette façon-là, des méditations en dansant, des méditations où tu parles en charabia, qui s'appelle le gibberish, comme si c'était un enfant de 4 ans qui parlait russe ou chinois. Des trucs un peu dingues, hein. Tu te retrouves dans des groupes avec des gens qui sont en train, avec 40 personnes qui sont en train de faire en faisant des gestes et tout, et tu te dis mais dans quoi je suis tombé, quoi. Genre c'est vraiment, j'ai la vision la plus folle de ma vie, c'était ce moment pendant une heure de gibberish dans une salle qui ressemblait, comme avait dit mon pote à l'époque, on aurait dit une salle à partouze, il y avait des miroirs au plafond, il y avait des canapés, des trucs et tout, on était là dans nos robes bordeaux à hurler en gibberish. J'ai vu des... J'ai vécu des scènes folles dans ma vie, mais aussi folles que ça, rarement. Mais ce qui est dingue, c'est que tu sors de là, tu t'es prêté au jeu. Et tu te sens trop bien. T'as une vibration, tu sais, t'as un truc, t'es genre... Tu te sens connecté et tout, tu te sens... Le but, ça s'appelle no mind, ça veut dire de faire taire le mental. Et toi et moi, on en sait quelque chose parce que nos mentales, ils ne s'arrêtent jamais. Et là, de voir le mental, ça y est, je l'ai épuisé avec le gibberish, ça fonctionne. Et tu te sens, tu sais, c'est une sensation. Et c'est extrêmement difficile à décrire avec des mots. C'est ce que je dis tout le temps aux gens à qui j'essaie de convaincre de méditer. Je dis, je peux vous parler pendant des heures de ce que c'est que méditer, mais pour que vous compreniez ce que ça fait, il faut que vous le fassiez vous-même. Si tu n'as jamais eu d'expérience sexuelle, si tu n'as jamais mangé un gâteau au chocolat, si tu n'as jamais été à un concert des Red Hot Chili Peppers, je peux te raconter pendant 3 heures ce que c'est, mais tu auras une compréhension infiniment petite par rapport à ce que tu vas vraiment comprendre une fois que tu vas vivre le truc. C'est pareil avec la pratique de la méditation et c'est pareil avec des trucs comme le gibberish ou comme toutes ces autres pratiques-là.
Et ça t'a pas manqué en revenant une fois, on va dire, que t'as goûté à ça parce que, par exemple, le gibberish, c'est pas un truc que tu peux vraiment pratiquer tout seul chez toi, quoi.
Non, écoute, tu sais, je l'ai refait. J'ai eu la chance, j'ai refait une ou deux retraites où il y avait un peu de gibberish. J'organise moi-même des retraites. On a fait du gibberish. C'était pas évident pour les Français de sortir de leur zone de confort et tout, mais on les avait bien préparés et ils ont adoré. C'est quelque chose que j'ai l'intention de refaire dans mes retraites. Mais tu sais, ça me manque comme, tu sais, pendant une période, je faisais du surf. J'allais au Sri Lanka parce que c'est bien pour les débutants et les intermédiaires. Il y a des vagues qui sont pas trop grosses. Il y a des mecs parfois qui t'aident à lire les vagues et tout. Ça me manque et ça me manque pas. C'est quelque chose que j'adore, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Moi, personnellement, en tout cas. J'ai une pratique spirituelle, j'ai une pratique sportive. Et puis après, j'essaye toujours d'aller vers des activités nouvelles, des activités... mais je peux pas dire que ça me manque maintenant. Je sais que je suis déterminé à aller... à continuer mon shopping spirituel. J'ai envie... Il y a cette méthode de psycho-spirituelle qui s'appelle Radical Honesty, l'honnêteté radicale. Donc, apparemment, j'ai un pote à moi qui en fait et qui m'en parle beaucoup. Apparemment, c'est un truc où genre c'est toute la vérité, rien que la vérité. Donc tu fais un stage Et là, je ne l'ai pas fait, hein, je te rapporte ce qu'on m'a raconté, mais où tout est raconté, dire les choses aux gens, leur dire des choses qui ne sont pas confortables. Tu fais un tour de piste et tu dis la chose la plus négative que tu as à dire sur la personne. Apparemment, il y a un moment où tu dois te mettre à poil, carrément, enfin, je veux dire physiquement, ouais. Tu te mets nu et tu racontes ton histoire et t'es filmé.
Oh là là. Oh. Ah oui, ils vous
ont accepté ça. C'est un sacré... Mais bon, moi, ça, j'adore les expériences extrêmes, donc ça me dit grave.
Mais tu vois, ce que je me dis quand tu me racontes ça, ça me fait penser à une partie de ton livre où tu dis qu'il y a un moment qui t'a marqué, c'est quand Jasmine, du coup, ton ex, te dit que t'es pas drôle.
Ouais.
Et tu dis, c'est dingue, comme... Cette phrase m'a marqué à jamais et que t'as toujours un peu essayé après de lui prouver qu'il était drôle. Moi je me dis, mais t'imagines dans ce genre de truc, on te dit peut-être le pire truc que tu voulais pas entendre, enfin voilà, t'es nain et en fait t'es quelqu'un qui est hyper complicé par ta taille. Mmh. Bah, imagine, en fait, moi j'ai toujours peur que ça fasse l'effet inverse,
ouais,
tu vois.
Ouais,
imagine
ouais.
Ces personnes-là restent marquées à jamais par ouais. Les mots qu'on leur a dit parce que les gens ont été trop crus.
Ouais. Bah ça, je peux t'en parler d'expérience. Alors déjà sur Jasmine, sur ça, c'était terrible, mais... Si tu veux, j'avais à cette époque-là un vrai manque d'amour de moi-même. Je ne vivais qu'au travers de son regard à elle. Et donc, c'était un cercle vicieux, effectivement, où à partir du moment où elle m'a dit « t'es pas drôle », je devenais de moins en moins drôle. Et à chaque fois que j'essayais d'être drôle, je me donnais des points et tout, c'était un cauchemar. Mais j'ai vécu, justement, dans une de mes retraites psychospirituelles, en Inde, un moment comme ça, où je me suis tout pris dans la gueule. C'est un moment où, en gros, pendant 5 minutes, on te balance tout. Mais en fait, c'est hyper utile comme truc. C'est hyper utile parce que ça te permet de te confronter à ça, ça te permet de te confronter à ton narcissisme, ça te permet de te renforcer. Moi, je pense que si c'est fait de façon bienveillante, ce qui n'était pas le cas de Jasmine à l'époque, qui par ailleurs est bienveillante, hein, mais... si c'est fait dans un cadre comme ça, thérapeutique, encadré, où tout le monde le fait, que c'est incroyablement bénéfique.
Mmh. Ok, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. En effet, ça dépend comme beaucoup de choses du contexte.
Exactement.
Et de la préparation mentale aussi.
Exactement.
Du coup, est-ce que du coup, là, tu pourrais nous dire peut-être un peu les top items de ton shopping spirituel. Genre, qu'est-ce que tu as ressorti de toutes ces expériences où vraiment ça a changé ta vie. Donc, on a compris à la méditation. Et peut-être après, au contraire, nous dire ce qui n'a pas marché. Alors, je sais que c'est très personnel, parfois il y a un truc qui ne nous parle pas, etc. Mais je pense que ça peut être bien aussi, comme bah, tu es étudiant en bonheur, mais tu es quand même aussi enseignant et tu t'y connais beaucoup, peut-être de nous dire des leurres, tu vois, des leurres où on pense trouver le bonheur et en fait, c'est pas ça qui va nous aider.
Tu sais, c'est vraiment, je crois, pour ce qui est de la pratique spirituelle, c'est un peu comme la musique, quoi. Qu'est-ce que t'aimes écouter, ou le sport que tu vas choisir de faire, c'est vraiment à chacun de voir le truc. Moi, j'ai picoré un petit peu de ce que j'ai vu chez Osho. J'ai pris beaucoup de ce que j'ai vu chez Prem Baba, et c'est quelque chose dont je me sers encore beaucoup, le psycho-spirituel. J'ai été, par exemple, chez Sri Sri Ravi Shankar, qui a un ashram qui s'appelle The Art of Living. Et là, c'était, je pouvais plus. C'était une nouvelle technique de méditation. J'avais trop de techniques, trop de trucs et tout. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va répondre vraiment à ta question, mais je ressens comme deux branches très importantes dans mon travail spirituel. Il y a une branche qui vient d'Inde. Une branche dont j'ai jamais parlé, mais dont je m'apprête à parler maintenant, à propos de laquelle je m'apprête à écrire un livre, qui est la branche chamanique, qui est un travail que je fais avec l'ayahuasca depuis des années, dont j'ai pas parlé jusqu'ici, dont j'ai l'impression qu'il faut que je commence à parler maintenant. Voilà où est arrivé mon shopping spirituel. Si tu veux, quotidiennement, j'applique Goenka, qui est l'enseignant de Vipassana. Régulièrement, je participe à des cérémonies chamaniques, des cérémonies où je bois ce breuvage sacré des tribus indigènes d'Amazonie, qui te permet, justement, lui, mais avec une force qui est extérieure, une force que moi je vois comme une conscience supérieure, de faire ce travail thérapeutique, de comprendre mieux ses blessures, son moi inférieur, de comprendre les choses qui en fait sont des obstacles à l'ouverture de nos cœurs et de nos consciences. Mm.
Et est-ce qu'il y a à l'inverse des pratiques qui t'ont pas vraiment aidé, ou en tout cas même juste des choses contre lesquelles tu vas peut-être mettre en garde en disant vous pensez peut-être que ça vous aidera ou que ça mènera à votre épanouissement, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Je sais que tu fais la distinction notamment entre plaisir et joie, donc les plaisirs qui sont extérieurs et la joie qui est intérieure, mais je me dis peut-être au-delà de ça, des déceptions ou des dérives que tu vois peut-être contre lesquelles il faut aussi mettre en garde.
Je pense que le plus important, c'est de, et ça c'est mon expérience, c'est de pas se vouer totalement sans garder son esprit critique. Parce que moi, c'est une des erreurs que j'ai commises. C'est sûr, j'ai mis des maîtres sur des piédestaux, on dit en fait.
Piédestal, je pense. Ouais. Hein.
En me disant qu'ils étaient éveillés, qu'ils étaient arrivés. C'est ce que j'ai fait avec mon chaman dans l'ayahuasca, c'est ce que j'ai fait avec Prem Baba. Et après, bien sûr, dès que tu mets quelqu'un sur un piédestal, à un moment ou à un autre, surtout si tu as le regard critique, ils vont tomber de leur piédestal. Maintenant, j'ai une approche qui est différente. Je comprends que l'éveil définitif n'existe pas, ou en tout cas, s'il a existé, c'est une anomalie historique, qu'il y a des personnes qui ont des défauts comme moi, j'ai des défauts, mais qui sont quand même capables de partager des choses, et que c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici et qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui fait du sens. C'est à nous de faire marcher notre sens critique. Je peux pas te dire aujourd'hui, je peux te dire oui, la technique méditative de Sri Sri Ravi Shankar, moi j'ai pas accroché. Mais j'ai pas accroché parce que j'avais déjà trop. J'avais Ama qui m'avait donné un mantra. Je faisais la technique de Goenka. J'avais déjà mes méditations préexistantes. C'était trop. Tu peux faire 3 sports, tu peux pas faire 8 sports. C'est un peu ça. Je pense que, moi tu sais, je crois que la vie elle est magique. Je pense que la vie elle met des personnes, des expériences sur notre passage. À nous d'être ouverts. En général, la vie elle vient nous donner ce dont on a besoin, c'est ce que je crois. J'ai une discussion avec mon amie éditrice Camille sur ça, qui elle me disait qu'elle croyait pas du tout dans l'intelligence de l'univers ou la magie de la vie, et voilà, c'est une de mes gros objectifs, de la convaincre de convaincre tout le monde d'ailleurs de ça, mais voilà, voilà ce que je crois. Et je crois que c'est un peu une chasse au trésor, en fait. Je pense que t'avances, tu vas dans un cours de yoga, ou tu fais une retraite, tu rencontres certaines personnes. Il y a un truc qui clairement qui me semble hyper important, c'est la pratique du silence. Évidemment, aller faire Vipassana. S'il y a la possibilité d'aller faire Vipassana, c'est le truc que je recommande le plus.
Et je tiens à dire, pour les personnes qui nous écoutent, parce que je sais que c'est une interrogation qu'on peut avoir, Vipassana est gratuit pour tous, parce qu'il repose sur un système de dons de la part des personnes qui l'ont déjà fait.
Absolument.
Donc voilà, ça aide quand même, ça lève quand même une grosse barrière.
C'est ça. Mais il y a énormément de demandes. C'est pour ça que j'ai été le faire en Inde, c'est parce que c'était impossible d'avoir une place en France. En plus, là, il y a cet auteur français, Emmanuel Carrère, je crois, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Yoga, où justement il parle de Vipassana. Je crois que le livre là, il est numéro 1 des ventes. Donc ça va pas aider pour les à libérer des places. Et voilà, je te parlais tout à l'heure de mon amie Jeanne Dujardin, qui organise des séjours silencieux. Ça s'appelle Silence Expérience. C'est une sorte de baby vipassana. C'est pas gratuit, c'est confortable. Donc c'est si on veut expérimenter le silence quelques jours avant de se jeter dans le grand bain. Je pense que ça, c'est le silence. Le silence, que ce soit dans le cadre d'une retraite ou que ce soit une pratique seule chez soi, ça me semble être un des éléments essentiels au fait de dompter le mental et d'évoluer.
C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, parce que tu vois, moi, ça me paraît presque contre-intuitif. Je te disais dans le livre, ce qui m'a le plus attiré, c'est justement ces défouloirs où on hurle, où on crie. Je me dis, moi, c'est peut-être que c'est le truc où j'ai plus l'impression d'en voir l'utilité, tu vois, où on se dit, OK, on extériorise le silence. Tu vois, c'est tellement mystérieux. On ne nous a jamais tellement dit, en fait, ce qui va t'aider à te sentir bien, c'est de te taire et d'observer tes émotions. Que c'est vrai que c'est une grosse barrière à dépasser, quoi.
Mais c'est dingue. Déjà, ça va ensemble. Ça veut dire, dans les endroits où tu hurles, notamment, je l'ai fait dans une retraite psychospirituelle que j'ai faite. T'as des moments d'atelier où tu parles, où tu hurles et tout, mais tout le reste, c'est silencieux. Mmh. Les repas sont silencieux, t'as pas le droit de parler en dehors des ateliers. L'idée, c'est que tu sois vraiment dans ton process. Mmh. Et j'ai fait une des retraites de Jeanne récemment, et il y avait deux personnes avant, c'était que pour un week-end, mais qui étaient complètement angoissées de pas parler pendant deux jours. Ils étaient là, genre, mais je vais pas y arriver, ça va être terrible et tout. Et il y en a une des deux à qui j'ai parlé, et je lui ai regardé, je lui ai dit, tu vas voir. Tu vas sortir de là et en fait tu vas plus vouloir parler. Ça va te manquer. Elle disait impossible et tout. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit t'avais raison. Mmh. T'avais raison. J'ai découvert quelque chose. Et c'est encore une fois c'est cette même histoire que si t'as jamais eu d'expérience sexuelle ou t'as jamais mangé de gâteau au chocolat, j'essaye de t'expliquer. C'est pareil avec le silence. Mmh. Je peux pas te l'expliquer. Tu dois le vivre. Mmh. Et c'est en le vivant que tu vois comme c'est merveilleux.
Oui, il y a un autre sujet du coup que je voulais aborder qui est un peu ta vie d'entrepreneur, parce que tu as toutes ces croyances et toutes ces pratiques, mais tu es aussi entrepreneur, alors que c'est pas l'image qu'on peut avoir d'un entrepreneur qui vit à 100 à l'heure, qui est toujours à droite à gauche, etc. Déjà la question qu'on peut aussi se poser peut-être à la fin de ton livre, et tu y réponds aussi pendant, mais c'est de te dire mais comment tu as financé tout ça, parce que même si tu passes un gratuit, il faut payer les billets d'avion en Inde, ouais. Tu te déplaces dans l'Inde, carrément de pays, donc tu prends pas mal d'avions, ouais. Certains ashrams coûtent très cher, bon en fait parfois tu le dis, t'es à sec quoi, mais ouais. Pour les personnes qui se posent la question, qui ont cette barrière mentale de se dire bah, je peux pas me le payer, qu'est-ce que tu leur dirais et quel a été toi ton processus de réflexion, voilà, je sais que tu avais déjà le blog, les Antisèches du Bonheur notamment.
Ouais. Écoute, sur mon cheminement à moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'étais avocat d'affaires et j'avais un appartement que j'avais acheté, que j'ai revendu, avec lequel j'ai fait une plus-value. Donc, j'avais des économies qui m'ont pas duré le temps qu'il m'a fallu pour me remettre sur pied. Donc, j'ai eu une période où je vivais sur mes économies. J'ai eu une période où j'avais plus un rond et où donc... voilà, je vivais, je m'achetais plus rien, je dormais sur des canapés et tout. Et grâce à l'activité des Antisèches du Bonheur, aujourd'hui, je gagne de l'argent. Je fais des séminaires en entreprise. J'ai travaillé beaucoup avec la société Decathlon, notamment, qui était mon premier client régulier, avec qui j'ai élaboré beaucoup des méthodes qui aujourd'hui sont dans mes retraites et dans mon deuxième livre, Les Antisèches du Bonheur. Et puis voilà, j'écris des bouquins, j'ai une application de méditation, je fais des retraites, je fais des conférences. Maintenant, mais si tu veux, quelque chose de très important que je veux dire par rapport à... S'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qu'il faut que la question elle soit vite répondue. je me suis toujours posé la question, avant, et notamment quand j'étais start-upper en Californie, de comment je vais gagner de l'argent. Comment je vais gagner de l'argent. Et quand je suis arrivé à faire ça, à faire les antisèches, j'ai dit j'arrête de me poser cette question. Je vais faire confiance à la vie, et la question que je vais me poser... c'est comment est-ce que j'apporte quelque chose de valeur aux gens ? Comment est-ce que je donne quelque chose aux gens qui va leur faire du bien ? Et je fais confiance à la vie que l'argent viendra, que si je fais ça, et l'argent viendra. Et c'est la première fois de ma vie, si tu veux, où je n'étais pas en train de micromanager ce qui allait se passer du moment où j'allais créer quelque chose au moment où j'allais mettre le chèque dans ma poche. Et ça s'est passé exactement comme ça. Ça veut dire le livre s'est manifesté, que ce soit l'éditeur qui est venu à moi, ou alors le livre lui-même qui s'est manifesté en sortant du Vipassana. L'application de méditation, pareil, elle s'est manifestée à moi. C'est les gens qui avaient l'application Leader en Allemagne, Seven Mind, qui sont venus me voir au travers de The Family.
Connais du coup Alice ou Samara et tout. Okay. Ouais.
C'est Balthazar, c'est grâce à Balthazar que j'ai rencontré Seven Mind. J'avais travaillé un petit peu, j'avais essayé de les convertir à la méditation un peu, notamment Alice et Balthazar.
Ouais, bah, je pense qu'Alice est très sensible, elle a des croyances très similaires aux tiennes.
Ouais, c'était une belle rencontre de family. Donc tout ça s'est fait en fait naturellement. Et je suis arrivé à un stade aujourd'hui. Donc oui, je suis entrepreneur, parce que j'ai plein d'activités différentes. Mais contrairement à quand j'étais start-upper en Californie et où il fallait absolument que telle et telle chose se passe, et je crois que c'est ce que je te disais la dernière fois, là je vois, j'ai un projet de livre, je vois si ça fonctionne, ça fonctionne pas, j'ai un projet d'application de méditation, je vois si ça fonctionne, ça fonctionne pas, une conférence, un truc, j'ai confiance que cette matière, elle fait du bien aux gens parce que c'est des retours que je reçois. Je sais pas quelle forme ça doit prendre exactement. Je fais confiance à la vie pour me le montrer. Et surtout, j'essaye de pas aller contre le flot. Quand il y a quelque chose qui veut pas, bah ça veut pas. Par exemple, j'ai eu quatre fois là un projet d'émission de télé. Qui avec différentes boîtes de prod, des rendez-vous avec différentes chaînes, une émission sur le bonheur et tout. À chaque fois, ça s'est pas fait. Bon, c'est que c'est pas encore le moment. Ça se fera peut-être un jour, ça se fera peut-être pas. On verra. C'est comme ça que j'essaye d'approcher les choses. Ça répond à ta question ?
Ça répond totalement à ma question et j'ai rigolé quand t'as dit... En fait, j'avais la phrase dans ma tête, moi ce que je cherche à apporter c'est de la valeur aux gens et j'ai toujours réfléchi de cette manière-là, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai fondé un projet, c'est parce que j'avais envie d'apporter de la valeur et mon processus de réflexion ça a toujours été comment je peux apporter de la valeur et d'abord ça a été avec mon compte Instagram, après avec ma chaîne YouTube, après avec le podcast, maintenant avec la marque de lingerie qui je pense va aider, j'espère, beaucoup de femmes à se sentir bien dans leur peau. Et du coup, quand t'as sorti pile poil la phrase, j'ai ri parce que je me dis, mais en fait, c'est vrai que moi, quand on me demande des conseils sur comment faire un projet qui marche, le premier truc que je dis, c'est apporte de la valeur, apporte de la plus-value parce que si, c'est tout l'intérêt de la chose en fait. Et après, les opportunités viendront à toi. Et c'est vrai que je crois pas au process de se dire qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent ou même de l'argent tout court. Enfin, si tu cherches la valeur, c'est qu'il y a un besoin quoi.
Exactement.
Il y a une question aussi que je voulais te poser. Je pense qu'aucune de tes journées se ressemble, mais je pense que ça peut aider peut-être à s'imaginer comment on peut allier justement un mode de vie où tu es à l'écoute de toi et où tu n'es pas dans ce rush qu'on peut imaginer de la vie d'entrepreneur, mais où tu as aussi tous tes projets. Est-ce que tu pourrais nous dire, pas une journée type, mais peut-être demain, tu vois. Ah ben non, demain en plus tu pars encore, c'est pas représentatif. Bon, est-ce que tu peux nous donner en gros une idée de tes journées ?
Ouais, écoute, mais comme tu dis, mes journées, elles varient énormément. Quand j'écris, elles sont tournées autour de ça. Quand j'écris, j'essaye d'écrire par bloc d'une heure et demie ou deux heures. Il m'en faut pas plus de deux dans la journée, ouais. Et c'est suffisant. Des moments où j'éteins tout, hein, pour être pleinement focus. Une journée, elle commence toujours par de la méditation. Une journée, elle va toujours avoir un moment d'exercice physique. Ça peut être juste aller me balader au bois, comme ça peut être faire du hot yoga, comme on a fait ensemble tout à l'heure. J'ai une passion pour le tennis. Dans une journée, il y a souvent un élément de création. J'essaye en tout cas, que ce soit écrire des méditations pour Seven Mind, que ce soit bosser sur un de mes projets de livre. Il y a souvent aussi une partie un peu plus business. Comme ce qu'on est en train de faire là, je parle de promotion, de discussion, de podcast, d'interview, de communication, je dirais plutôt.
Ouais.
Mais qui est moins dans la création et plus dans le partage des idées. Tous les jours, il y a des échecs en ligne, parce que je suis passionné d'échecs. Et il y a de la lecture. Je suis là dans mon 10e livre consécutif de Robin Hobb, qui est le coup de foudre littéraire de ma vie. C'est des histoires de fantaisie, de dragons, de liens avec des animaux. C'est spirituel, c'est magnifique. J'ai jamais lu un auteur de 10 bouquins consécutifs d'un même auteur. Mais là, c'est en train de complètement changer ma vie. J'en ai encore 6 à lire. Donc ça, surtout pendant le confinement, ça avait une place très importante. Je lis beaucoup de livres sur la neurologie, sur les sciences sociales, sur donc ça prend une place. Je mange très souvent des bols d'açaï et des plats de pâtes.
D'accord.
C'est les deux trucs dont je me nourris le plus.
Tu connais Açaï & You ?
Non.
C'est vachement bon.
Ouais,
là, ils ont ouvert récemment, c'est un bar d'açaï, ouais. Avec des vrais açaï.
Ah ouais.
Voilà, je te passe l'adresse parce que je suis aussi une adepte.
Trop bien. Je ne sais pas si j'ai trop répondu à ta question, j'ai essayé de prendre
éléments.
Non,
mais si, je trouve ça intéressant, ouais. Parce qu'on voit en fait que tu structures tes journées en fonction de ce qui te fait du bien au final, ouais. Tu vois. Et moi, je sais que c'est vraiment un message que j'essaie de partager. parce que je trouve ça tellement dommage. On s'en détache un peu, mais on a tellement vécu dans une société où travail est égal à labeur. Et bien sûr qu'on doit payer ses factures, mais je partage vraiment le message qu'on peut réussir à payer ses factures en faisant quand même des choses qui nous font plaisir. C'est pas forcément simple, mais on y arrive, on peut commencer à côté. Et voilà, toi, le blog, ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Non. C'est t'as partagé, t'as appris. Ouais. Et je pense vraiment que... Enfin, je suis encore dans cette phase personnellement où mes projets m'épanouissent beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle, parce que je sais que toi, tu arrives à avoir ces projets comme servant au final juste un objectif plus grand qui est d'aider à l'éveil spirituel et au bien-être. Et ce que je trouve assez, assez dingue, parce que sinon, quand on mène des projets, il y a toujours une part assez égoïste au final, tu vois, même si c'est toujours, j'espère, poussé par la volonté d'aider. Je me dis que si on tient autant à ces projets, qu'on y est aussi attaché, c'est que bah, d'un autre côté, on fait le rejet aussi un peu de soi et que c'est un peu... Ouais, au lieu de chercher peut-être à être bien avec soi, on cherche à avoir des projets qui marchent.
Il y a beaucoup encore là.
Il y a encore beaucoup. Bah, bon, tu sais, mais
c'est bien les podcasts,
on part à droite, à gauche. C'est ça que j'aime bien aussi.
Un premier point sur le fait de se faire du bien. J'ai un coach qui s'appelle Romain Bastide qui m'a beaucoup aidé justement dans mon développement de mon travail et surtout dans mes priorités. Et un jour, il m'a dit « Écoute, le plus important, c'est que tu prennes soin de toi, parce que le reste, ça va se passer tout seul. » Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur et que j'ai envie de partager aussi avec d'autres entrepreneurs, c'est de dire « Prends soin de ton sommeil, prends soin de ton alimentation. » Prends soin du besoin que tu as de faire de l'exercice physique. Prends soin du besoin de connecter avec la nature. Ces choses-là, ce n'est pas des choses secondaires. C'est des choses primaires. Et c'est ça que moi, je vois aujourd'hui. C'est que je dois d'abord me donner ces choses-là si je dois pouvoir donner quoi que ce soit à qui que ce soit. L'autre chose par rapport à la douleur, hein, le point que tu faisais... ça, c'est quelque chose de très important. Je sens qu'il y a une énergie différente quand j'en ai marre. Et déjà, j'essaye de voir tout ce que je fais, même quand c'est un peu chiant, comme génial, et de me conditionner, de me dire, de le voir comme un jeu. Hier, par exemple, je devais enregistrer des méditations. Et ce n'est pas le truc que j'aime le plus faire avec le micro, le truc, répéter sans cesse et tout. Mais je me suis reconditionné pour dire, mec, c'est génial ce que tu fais, c'est hyper cool, c'est un kiff et tout. Et puis ça l'était jusqu'au moment où j'ai bossé dessus 5 heures et tout, j'en pouvais plus. Et j'ai eu ce truc où soit j'allais pousser encore, mais j'allais le faire la dernière heure dans la douleur, soit j'allais le faire un autre moment et j'ai décidé de faire un autre moment. J'aurais pu me débarrasser et ça aurait été bien, mais c'est important de rien faire. En tout cas, moi je trouve, hein, parce que j'ai tellement travaillé dans la douleur, notamment quand j'étais avocat ou quand j'étais entrepreneur, de me dire là je fais rien dans la douleur. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est hyper important. Et l'autre truc, tu parlais de oui, je me sens, et alors c'est peut-être un peu grandiloquent, mégalo, mais je me sens investi d'une mission. J'ai envie de partager ce que moi j'ai découvert. J'ai envie de faire, de suivre dans les traces d'un Eckhart Tolle. Je vois le bien qu'il a fait, comment il a transformé ma vie. Je trouve ça, y a rien qui me semble plus beau que de pouvoir comme ça aider à transformer la vie des gens, à augmenter les capacités de conscience, de connexion à soi-même et à la nature, d'empathie, de compassion. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment que tu peux appeler altruiste, mais attends, mon ego, il est bel et bien là, hein. Il n'est pas parti du tout. Il y a de l'ego partout. Et l'ego, une fois, j'avais une pote qui m'a dit my ego is getting smarter. Mon ego devient de plus en plus intelligent, et c'est vrai. Et c'est vrai, l'ego, c'est une sacrée bête. Et si tu veux, mon narcissisme, mon ego, ils sont toujours là. Quand je passe, cette année, je suis passé avant qu'elle s'arrête sur l'émission de Laurent Ruquier. Pour mon ego, c'était la consécration de ma vie, quoi. J'en pouvais plus. Tu sais, j'en avais conscience, mais j'étais là. Donc, tu dois vraiment faire attention à ça. Et le truc, c'est comment est-ce que tu interagis avec. Et l'idée, c'est pas de faire semblant que ton ego est pas là. C'est pas d'essayer de faire disparaître ton ego, parce que c'est pas possible. C'est apprendre à bien le gérer. C'est apprendre à en faire un outil. C'est apprendre à pas le laisser prendre les manettes.
Comme le mental, au final.
C'est ça, c'est ça.
Ok. Alors, il y a une autre question que je voulais te poser, même si tu y as déjà un peu répondu. C'est si tu as des lectures à recommander aux personnes qui nous écoutent.
Oh là
ouais,
là.
Je sais. En plus, bon, déjà, lisez les livres de Jonathan, parce que non seulement ils sont top, mais en plus, dans les bouquins, tu recommandes des bouquins à lire.
Oui.
Mais là, peut-être, tu vas nous faire ton top 3. Les personnes qui nous écoutent, ils doivent acheter 3 livres demain.
Oh là là là.
À part les tiens. C'est lesquels ?
À part les miens. J'ai une telle, c'est tellement la plus grande passion de ma vie de lire, et c'est tellement une passion qui est relativement nouvelle, qui n'existait pas avant pour moi. Écoute, le premier livre qui me vient là, parce qu'il est tout petit, c'est L'Art d'aimer de Erik Fromm. Je te l'avais filé.
Oui, tu sais que je viens de m'en rappeler. Ouais, j'ai tellement été prise par tes bouquins que j'ai oublié celui-là. Ouais. Donc, super.
Magnifique essai sur l'art d'aimer, écrit dans les années 50. L'idée que aimer, c'est un art, qu'il faut donc acquérir la théorie, la pratique, faire la fusion des deux, qui est l'arrivée de l'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit un art? C'est un process d'essai et d'échec. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Évidemment, mais je vais en faire plus que trois, hein, tu vas me laisser.
Bah vas-y alors.
Mes bibles de B.A.B.A. Du travail spirituel, avec celle-là, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est les écrits de Eckhart Tolle. J'aime bien recommander en français « Mettre en pratique le pouvoir du moment présent », qui est fin, qui n'est pas très gros. Aucun de ces trois bouquins est gros, c'est important, parce que ça rend le truc un peu plus facile. Je suis obligé de recommander les livres de Robin Hobb, là, qui ont fait un hold-up sur ma vie et qui sont spirituels sans être. C'est des romans de fantasy. Moi, je ne lisais pas du tout la fantasy. C'était pas du tout là-dedans. Mais il y a quelque chose. C'est de la psychologie, c'est de la spiritualité, c'est de l'aventure, c'est tout ce qui est magique avec la lecture. Il faudra que je te file la première trilogie. Il y a un livre important qui est sorti récemment d'un auteur qui s'appelle Michael Pollan, dont on a parlé, je crois, pendant la première moitié. Le livre en anglais s'appelle « How to change your mind ». En français, il a été traduit « Voyage aux confins de l'esprit », je crois. Michael Pollan, il a été traduit cette année. Hyper important sur la promesse thérapeutique de la psilocybine, du LSD, un livre vraiment, vraiment majeur. Un auteur, pour moi, qui est le plus grand penseur contemporain, c'est évidemment Yuval Noah Harari, Sapiens, Homo Deus, 21 règles pour le 21e siècle. Là, il sort avec une version illustrée de Sapiens. Sapiens, c'est... Tu l'as lu ?
Non.
Pas encore ?
Non, mais il est sur ma liste, ouais.
Tu le lises absolument. Il pense de manière transversale. Il peut te parler en même temps de sciences, d'histoire, d'anthropologie, de sociologie. C'est fascinant, tu comprends la condition humaine d'une autre façon. Ça a changé ma vie aussi, ses écrits à lui. Il te décrit le futur aussi d'une manière qui est saisissante et qui te fait mieux comprendre les challenges d'aujourd'hui.
C'est déjà pas mal.
C'est super,
je mettrai tout ça dans la note du podcast. Vous inquiétez pas, comme ça, vous pouvez retrouver facilement. Une autre question que j'ai envie de te poser, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast ?
Qui est-ce que j'aimerais entendre ? Mais ça peut être n'importe qui.
Ça peut être n'importe qui.
Et ça peut être quelqu'un de...
Bah, dis-nous peut-être quelqu'un où ça va être chaud et quelqu'un, c'est plus plausible.
Quelqu'un, ça va être chaud. Bah, j'ai envie de dire Yuval Noah Harari.
Ok.
C'est la personne... qui m'impressionne le plus et qui, à mon avis, tient énormément de clés pour nous aider à évoluer et sortir de l'âge sombre. Quelqu'un plus...
Parce que tu connais beaucoup de gens, quand même. Ou tu vois, tu peux te dire aussi quelqu'un que t'aimerais entendre ou quelqu'un que les auditeurs et les auditrices gagneraient à entendre.
Il y a quelqu'un qui m'est venu, mais ça, c'est complètement rien à voir avec la choucroute, mais, mais quelqu'un pour qui j'ai une grande, grande, grande admiration, c'est Blanche Gardin. Quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Maintenant, beaucoup de personnes, là auxquelles je pense, c'est des personnes anglophones, parce que c'est un peu ça que je fais, tu sais, de mon travail, c'est...
Traduire...
C'est aller m'abreuver, surtout, parce que c'est... en anglophonie, et donc j'ai envie de te dire Yuval Noah Harari, j'ai envie de te dire Eckhart Tolle, j'ai envie de te dire Michael Pollan, j'ai envie de te dire les auteurs de ces bouquins.
Et toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui, tu penses, pourrait faire beaucoup de bien, pourrait apprendre beaucoup de choses aux auditeurs, aux autrices d'InPower?
Ah, mais plein. Bah, écoute, la première personne qui me vient en tête, c'est Jeanne qui organise les retraites en silence dans mon entourage. Mais en fait, il y a plein de personnes dans mon entourage qui sont... J'ai un ami, Michael, qui est spécialiste de l'approche psychospirituelle et qui est prof de Tai Chi et de Qigong et qui est comme un grand frère spirituel. J'ai mon coach Romain Bastide, dont je t'ai parlé, qui travaille avec des champions de tennis et de golf et qui, lui, il amène la spiritualité.
J'ai toujours voulu recevoir un préparateur mental. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fait un peu, mais...
Un petit peu, ouais.
Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Ouais.
Et il y a Caroline Garcia aussi qui est une des meilleures joueuses de tennis au monde, je crois qu'elle est numéro 1 française, ou numéro 2 là, avec qui on parle beaucoup de ces thématiques-là, de la méditation et tout, et qui est en train de vivre une vraie transformation à ce niveau-là. Et tu vois, je pense que écouter parler de cette transformation, Alizée Cornet aussi, qui est une autre joueuse de tennis française, qui vient de sortir son autobiographie, et où elle parle justement de tout ça, de sa découverte de la méditation, parce qu'elle, en plus, elle revient d'assez loin, elle a un gros caractère. Ces personnes qui vivent des changements.
Ouais.
Il y a quelqu'un, c'est Emmanuel Carrère, je ne sais pas si
c'est... Celui qui a sorti le livre Yoga, là.
Ouais. Lui, je ne le connais pas du tout. Je crois que c'est une grosse marque de mon inculture de ne pas le connaître, parce que je crois qu'il est très, très, très connu. Il a écrit notamment un de ses bouquins, je crois que c'était L'Adversaire, qui est devenu un film, qui était un gros film.
Écoute, j'ai jamais lu non plus ses ouvrages, donc on est deux dans l'ignorance.
Mais lui, j'ai lu une interview de lui dans l'Obs de cette semaine, et je trouvais fascinant. Et j'ai l'instinct que son bouquin, il va faire beaucoup justement pour
démocratiser toutes ces connaissances.
Pour rejoindre cet effort-là.
C'est cool. Bah, tu pourras, j'espère, mettre en relation avec ces personnes. Moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et surtout sur des sujets. Comme c'est des personnes qui ont des profils très différents d'après ce que tu me décris, donc ça peut être, je pense, hyper inspirant. Ouais. Je sais pas. Je crois que je t'avais posé la dernière question signature dans le premier épisode. Je t'avais demandé, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Ah oui, tu me l'avais demandé, ouais. Je sais plus ce que je t'avais dit.
Qu'est-ce que tu me dirais là, alors?
Ça veut dire se réveiller. J'essaie de te dire autre chose, mais ça veut dire se réveiller. Ça veut dire arrêter d'écouter les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes. Faire face à la vérité et avoir la force et le courage d'être prêt à évoluer. Et donc de lâcher les choses qui nous servent plus, même si elles sont attrayantes, et d'aller vers les choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Moi, un des gros changements dans ma vie ces dernières années, un leitmotiv, c'est il y a beaucoup de choses qui me font beaucoup de bien sur le très court terme, mais qui sont pas bonnes pour moi sur le long terme. Et c'est ces choses-là qu'il faut que j'abandonne et pour me concentrer vers des choses qui me font du bien, même si elles me font moins de bien immédiat sur le court terme. Qui sont là et qui me font du bien de façon non équivoque.
Ok, écoute, trop cool. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette conversation encore une fois passionnante.
Merci à toi.
Tu vois, je t'avais dit, on allait facilement faire encore une heure cette fois-ci. Peut-être qu'il y aura un troisième épisode pour ton troisième livre. En tout cas, on sera amené à continuer à parler et je vous partagerai tout ce que j'apprends grâce à Jonathan sur les réseaux. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Vers mes livres. Je crois que c'est le meilleur moyen de partager, c'est ça pour moi, c'est les livres. Donc c'est mon livre Journal intime d'un touriste du bonheur et Les antisèches du bonheur. C'est mon application de méditation, Seven Mind, dont je sais que...
Ouais, je crois, alors c'est cadeau pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'épisode, je crois que mon code My Better Self est encore valable.
D'accord.
Donc je vous remettrai ça dans la note du podcast, je pense que... Enfin, ça vous donne une belle réduction vraiment sur l'abonnement à l'année. Donc voilà, cadeau pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout.
Et voilà, oui, sinon j'ai une page Instagram qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur, mais sur laquelle et bien sûr ma page Facebook qui est de là où tout est parti et qui est là où j'ai fait notamment des lives pendant le confinement. Mais je vais un peu moins sur les réseaux là parce que j'essaye de plus écrire, faire des choses qui puissent avoir un impact un peu plus important.
Ok, super. Merci beaucoup, Jonathan, et je te dis à très vite.
Je t'en prie. Merci à toi, Louise.
J'espère que cette conversation avec Jonathan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @lesantisèches du bonheur et @mybetterself. Et si vous voulez aller plus loin pour découvrir le travail de Jonathan, je vous conseille vraiment d'aller lire ses livres et de découvrir son application de méditation Seven Mind, qui est vraiment top pour s'initier à la méditation. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.